Bienvenue du coup sur le podcast Forge FM de février, donc le podcast de la Forge Ludique. Aujourd'hui, autour de la table, donc on aura Dim.
Salut.
Vonny.
Bonsoir.
Masp.
Bonsoir.
Et moi-même, Noskill. Donc bonsoir à tous. Et avant de commencer, bien sûr, on va voir notre super jingle.
Salut, et donc je suis très heureux de vous retrouver en live pour aujourd'hui ce nouveau podcast mensuel. Donc on va commencer par un petit tour de table des news de chacun, un peu la news perso du mois, pour que ce soit en peinture, figue, jeu de plateau, n'importe quoi. Même film, hein, même série, vous pouvez y aller les gars, hein, c'est possible. Ensuite, on passera à la chronique de Vonny, qui nous parlera de jeux narratifs, comme habituellement. Il y aura Masp qui fera une chronique sur Space Hulk, V1, je précise. Et moi-même qui vous parlera des mondes engloutis, des mondes perdus. Et aujourd'hui, on parlera du monde de Mutant Chronicle. Donc je vais laisser la parole à Noskill, Pac Le Guen National. Bah, vas-y, commence ta news parce que.
Ok.
Parce que
alors au niveau news perso, comme on a vu la dernière au dernier podcast, hein, j'ai fait l'acquisition de quelques Zorucs. Donc en gros, je les ai montés pendant tout ce mois-ci. J'ai tous montés un par un.
Et là maintenant, t'as acheté la peinture, c'est ça?
Et ouais, j'ai acheté la peinture et puis j'ai fait mes premiers coloriages.
Tes premiers Games Workshop. Ouais.
Non, en gros niveau peinture, là, je suis plus sur du Warcry. Normalement, ça devrait arriver bientôt. Je vais bientôt terminer. J'espère finir ce week-end une nouvelle bande. Sinon, rien de plus en termes de nouveautés, je pense.
Ok. Une série que t'as regardée?
Une série que j'ai commencé. Balance. Alors, bah, il y a déjà, je l'ai Watchmen. Watchmen.
Ouais. Ah, t'es seulement commencé à regarder Watchmen.
Non, je suis au sixième épisode.
Ouais. J'ai déjà fini depuis.
Et je me garde précieusement la deuxième saison de Altered Carbon.
Ouais. J'ai commencé. Ok, on va tourner comme ça. Du coup, je vais parler pour moi. Ce mois-ci, je suis sur du Pike and Shot. Je continue le running project de faire une armée suédoise pour la guerre de 30 ans sur le jeu Pike and Shot. Ouais, tu peux aller chercher la figurine. J'en ai peint quelques-unes. Donc c'est un jeu de masse hein, de chez Warlord qui fait plutôt de l'histo. Et je vais montrer la figurine. Donc je suis plus fier qui a été peinte en contraste. Je la montre.
Ouais.
Fais le point.
Nice. Yeah.
C'est ce qu'elles disent toutes.
Parle à ma main.
On n'arrive pas à voir le visage du coup. Ouais. Voilà, voilà, bref. En gros, voilà. Donc, il y a des petites recherches historiques, tout ça, c'est ça qui est sympa. Je retrouve des sensations que j'avais perdues sur Bolt Action, où il faut faire des petites recherches histo, sauf que là, c'est plus compliqué, hein, parce que tu le fais avec des tableaux du 18e siècle, hein, donc c'est un peu compliqué. Voilà.
En plus, à l'époque, c'était qu'en noir et blanc.
C'est ça. Ouais. Et deuxième news, ouais. Je suis en train de monter une équipe de... Bah, alors aussi mes ogres, mais j'en avais pas trop touché cette semaine. Pas touché d'ogres, ça mord, c'est dangereux. J'ai plutôt monté ma deuxième équipe de nécro, mais je garde le secret sur la faction. Je veux pas dire ce que je vais jouer.
Codor.
Je l'ai monté, non. C'est pas Codor, mais je répondrai pas.
De Necromunda.
De Necromunda. Necromunda. Et niveau série que je conseille, que j'ai regardé jusqu'au bout et que j'ai terminé, il y a Lock and Key qui est vraiment pas mal sur Netflix avec les clés. C'est pas mal. Ça se regarde avec les enfants. En plus, c'est pas trop foufou. Ouais.
Le comic, c'est sympa aussi. J'ai acheté le premier tome la semaine dernière.
J'ai jamais, ouais.
Et tu lis pas avec les enfants, bah.
Ouais, je pense que le comic doit être plus...
Un peu plus trash.
Et j'ai commencé à regarder Hunters sur Amazon Prime, qui est très Tarantino dans dans son truc, avec Al Pacino dedans. D'accord. Et Josh Radnor, qui joue Ted Mosby de How I Met. Et qui joue un mec complètement 70. Ça se passe dans les années 70 et ils font la traque aux nazis. Voilà. Donc il y a une ambiance Inglorious Bastard mais avec des roues flaquettes quoi. Voilà.
Les chemises ouillées.
Mais les chemises ouillées. Ouais. Oh, cool. Vas-y Pierre.
Les news de mon côté, c'est du Warcry, du Warcry, du Warcry. Donc on a une toute petite campagne là qu'on a appelée Convergence, dans laquelle on joue le livre de base. Donc c'est le livre Vanilla. Ça nous a permis de faire des playtests, de nous rendre compte que très vite il fallait certainement passer sur les suppléments. Là, on hésite sur une deuxième partie de campagne à voir si on va essayer de créer une immersion autour des grandes alliances en fait, ordre, chaos, mort, etc. Ou bien si on part sur du fluff chaos avec que des bandes du chaos, on va dire de la boîte de base en fait. Donc il y a vraiment une hésitation entre les deux. On verra en fonction de ce que les membres ont envie de.
On verra. Et juste là-dessus, en fait, on a fait, juste pour noter, hein, on a fait des soirées spécifiques, hein, ouais. Plusieurs soirées spécifiques. On a fait une journée entière. La semaine dernière, on avait une journée aussi en arène. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Facebook et sur notre site. On a fait des photos et des vidéos des combats en arène acharnés contre des géants et des gros monstres. Et on a préparé également une deuxième journée entière. J'ai plus la date en tête, mais ça doit être début avril. On aura un dimanche à la Forge, full Warcry. Ouais. Donc, si ça vous tente, hein, nos chers auditeurs, si ça vous tente, n'hésitez pas à passer. Hein, on fera un plaisir de se mettre sur la figure.
À voir si d'ailleurs on continue à jouer nos bandes ou si on démarre des nouvelles.
Ouais, c'est Warcry, c'est bon.
Ou si on part sur la journée organisée, parce que le livre de base propose un système de campagne narrative à jouer sur une journée. Ce qui peut être sympa, c'est la campagne d'escalade, il me semble.
D'accord.
Ça pourrait être sympa.
À préparer du coup tout ça. Donc ouais, normalement, bon, on partagera les dates, hein, bientôt.
Ouais. Sinon, pour tout ce qui est culture série, tout ça, bah, j'en ai regardé beaucoup là. Altered Carbon, ouais, j'ai commencé hier.
Non. La première saison ou la deuxième?
La première, vraiment.
Ah oui, t'avais jamais regardé.
Non, mais moi j'aime bien regarder les trucs avec beaucoup de retard en fait. J'aime beaucoup faire ça parce que du coup j'ai plein de retours avant. Altered Carbon, j'ai mis du temps, mais j'y suis. Sinon, Lock and Key, j'ai commencé, ma femme accroche pas, moi j'aime bien. Et surtout là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de lire la série de manga Gunm.
Gunmyo.
Et franchement, c'est extraordinaire et c'est tellement référencé. Enfin, quand on joue à Necromunda, on comprend mieux Necromunda. On voit.
Oui.
C'est quand même des influences vraiment cool.
Voilà. Bah, la pop culture, elle a tellement pénétré.
Ouais, c'est vrai que c'est un grand classique, mais il est vraiment cool.
Ah, c'est génial. Ouais.
Mais ça, du coup, c'est pas un rapport avec Ghost in the Shell. Hein.
Pas du tout.
Non, c'est pas le même auteur. Hein.
Non, ça fait du Necromunda en fait.
Hein. Non.
Toute la partie en dessous, dans Kuzutetsu, en dessous de Zalem, c'est une grande déchet. En fait, t'as une cité un peu dans le ciel.
Par contre, c'est Alita en fait.
Ouais, c'est ça. Alors en fait, moi j'ai commencé à cause du film qui est pas si mauvais, mais qui est vraiment.
Ouais, moyen.
Regarde avec des enfants, quoi.
Peut-être pas avec des gosses, justement,
mais ça va encore.
Alita, si vous voulez, c'est vraiment un résumé. Ils ont résumé 9 tomes en 2 heures de film, c'est un peu ridicule.
Ça fait beaucoup de fromage.
Ce qui est génial, c'est que l'auteur était quand même vachement en avance sur son temps. Ça parle de cybernétique, de transhumanisme.
Ouais, et puis c'est des années 80, hein, c'est
90.
90 quand même, sorti en 90.
En France ou au Japon? Mon avis, c'est 90 en France.
Ouais,
80. Fin 90 en France.
Moi, j'aurais dit 86-89 au Japon, mais après, j'en sais pas plus. Je sais que je l'avais acheté à la sortie au Furet du Nord, habituellement.
Je crois que je l'ai lu le premier. On m'avait filé ça, j'étais au collège, le premier tome, et j'avais bien aimé, mais je suis pas très fan de BD.
La suite est meilleure.
Ouais, le manga, vraiment bon. J'ai du mal à lire.
T'as vraiment l'ambiance au Necromunda.
C'est vraiment ça.
Dans la décharge, c'est ça. C'est déchéance à mort. Les gars,
ce que tu ressens pas dans le film, par contre, hein, dans Alita, ça fait Bad Westland, mais vaguement.
Le film est manichéen, les personnages du livre sont complètement barrés, en fait. Le personnage principal est très naïf, et il y a un médecin qui est avec elle, qui lui est un pur salaud, en fait.
Oui, mais alors que dans le film, il est sympa.
Ouais. Ouais. C'est hyper intéressant.
C'est Hans Landare.
Ouais, tout à fait.
Ok. Vas-y, sans transition.
Sans transition.
Bah, moi, niveau figurine, je suis un peu dans, je rejoins un peu le groupe un peu tard, parce que moi aussi j'aime bien prendre des choses un peu avec retard, c'est que je me mets tranquillement à Warcry, hein. J'ai peint cette semaine un exploit pour moi, une semaine de peindre quasiment 10 figurines. Enfin, 8
en sous-marin en plus.
En sous-marin, ouais, ouais, si on
serait pas marrant. Tiens, à boule ta boîte là, qu'on
voit. Ça serait pas marrant.
À boule ta boîte, wesh.
Bon, les socs sont pas encore faits. Il reste encore un gros.
Ah, des chocolats.
Un gros homme bête à faire. Alors, c'est très 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 sympa, très très sympa à peindre, très rapide, contrairement à ce que je pensais. C'est peint, la peau est calée à contraste.
Attends.
Le Gleeman Flesh, franchement, ça marche c'est bien, la vie. Hein. Ouais, c'est la vie.
T'as pas essayé le Dark Horse Flesh?
Non, non, non.
Parce que moi, c'est ce que j'utilisais sur mon Misto.
Et puis, donc là, bah, normalement, juste après le podcast, je dois tester les règles, je les ai lues.
Ouais. Ça marche pas.
Donc,
il y a des feuilles blanches.
Non, c'est très agréable à peindre. Pour du enfin, c'est du barbare, quoi. C'est les Tyrant Spear, d'ailleurs, pour le dire, d'ailleurs.
Qui est cool, lui.
Alors, ce qui est assez intéressant avec ces figurines-là, c'est que, bien sûr, c'est recyclable. Et puis, on peut aussi mettre des trucs d'autres marques, sans problème, d'autres barbares.
Ça marche bien, ouais.
Ça va pas dénoter, quoi. D'ailleurs, je pense, prendre, la semaine prochaine, ouais, une boîte de pillards de Garek pour compléter un peu tout ça, pour donner un peu plus de variété.
Ça fait très Conan le barbare.
Ouais,
quand même.
Ah bah oui, côté,
c'est pour ça qu'on aime.
Voilà.
Tu aimes ça, hein, la peau de
ouais, tête. Et puis moi, c'est le côté un peu aussi un peu musclore, un peu machin. Enfin, ouais, les c'est... barbares, moi, ça m'a toujours intéressé. Je suis gamin. Hein, les hommes huilés. Voilà.
Voilà. Tu sais quoi, j'ai compris. Les hommes mulets.
Avec... c'est un nouveau
concept. Parce que c'est son esprit un peu 80, il aime bien les hommes avec un mulet.
C'est,
mais...
pas, ce qu'il a dit. C'est pas ce que t'as dit.
Non, les hommes mulets.
Les hommes mulets.
Pas les hommes mulets, non, non.
Il a compris, mulets.
Coupé.
Oh mon dieu, mais qu'est-ce que vous me faites dire?
Tu aimes les hommes avec une coupe mulet et des gros muscles.
Et toujours, en parlant de gros muscles, là, je suis en train d'attaquer un nouveau gang pour Nécro. Yeah. Avant, je jouais gang Jane Steeler, maintenant, je passe sur le Goliath.
Gang Bang.
Avec là, aussi de la figue quand même un peu plus customisée par les trucs de base.
Bah, Goliath, c'est quand même donc aussi encore huilé. Est-ce que tu vas leur faire des mulets, du coup?
Mais je pourrais, si tu veux. C'est mal pareil pour l'instant.
Tu sais, un chef avec un mulet, de l'acné, et qui parle comme ça, il va te péter ta gueule, espèce de petit con.
T'as vu mes gros muscles? Toute la semaine, j'ai soulevé des poids halter. Je vais te péter la tronche.
Et pourquoi il plie pas l'herbe? Et on met de l'huile de moteur pour ça, ça fait pousser, non?
Voilà. Bref. Voilà. Et c'était le quart d'heure colonial. Merci de rester avec nous. Et puis niveau série, ben écoute, moi aussi je regarde aussi beaucoup. Je suis pas très connecté comme gars, tu vois. J'ai beaucoup de retard sur ce qui se passe. Et là, j'ai terminé The Expanse dernièrement.
Ah oui. La dernière saison.
Ouais.
Ouais, t'as été tout au bout.
En fait, moi, j'avais fait la saison 1, je sais pas si j'avais fait la saison 2. Enfin, je l'ai revu la saison 2, il y avait 2, 3, 4. Et ça me plaît beaucoup, j'aime beaucoup.
Ouais, la dernière, elle est un peu en demi-teinte, moi, je dirais.
Hard SF, ouais. Mais on attend la suite, quoi.
Ouais,
on attend la suite.
J'ai
moins
aimé.
Ils ont été confirmés pour une cinquième saison, donc on attend ça avec impatience.
J'avais peur, à la fin de la troisième, de dire, ah, c'est bon, on arrive dans Stargate maintenant.
Ah oui,
ils sont pas partis là-dessus. Non. Par contre, ce que je reproche, c'est que du coup, tu retrouves pas l'effet de l'espace un peu confiné, le côté politique, il est moins présent.
Ce qu'on aime dans la première saison.
Ouais, voilà, ce que t'aimes vraiment, les ceinturiens, etc.
D'un côté, ça permet aussi. Bah oui, il devait passer par là parce que si on était retombé dans le confinage, etc. Limite, on part là-dedans pour revenir ensuite pour oublier ça.
J'ai oublié de parler d'une série. Est-ce que vous avez regardé Le Mandalorian?
Bien sûr,
j'ai le vaisseau qui est en train d'être imprimé en 3D à la maison. Ah.
La photographie est extraordinaire, mais par contre, le scénario.
Oui, parfois c'est inégal.
Alors,
c'est
moi, inégal. Mais carrément, il n'y a pas d'histoire, ou très peu. C'est très basique. Cela dit, moi, ça me dérange absolument pas.
C'est un western.
Quand tu regardes les western spaghetti des années 70, c'est ça. Mon nom est personne. T'as pas d'histoire.
C'est fait exprès.
Le bon, la brute et le truand. T'as pas d'histoire.
Tu sens l'inspiration.
Simplement, c'est la musique, c'est la photographie.
La musique, elle
est. Je vais faire le maître du temps aujourd'hui. Voilà. Hein, donc, on est à un quart d'heure, donc je pense que ça.
C'est la chronique de.
Je vais m'arrêter. Je vais être obligé.
Non, mais c'est à d'autres séries.
Dracula.
Non, simplement, je dirais. Là, j'ai certainement. Là, j'ai envie d'entamer Westworld.
Ah ouais, c'est très très bon.
Wayne's World,
je
connais.
Wayne's World,
Megatuff,
Westworld.
Là, c'est pas Megatuff Westworld. Non, non, non. Mais c'est pas mal.
Voilà.
Ok. Voilà. Ah, on devait faire un point. Stop. How much time?
C'est vrai, tout à fait.
Ouais. How much time?
On a quand même imprimé les affiches.
Dans les dernières news, en effet, le Hammer Time, ça bouge un peu.
Ça, c'est la news de la Forge. Hein.
En exclusivité, vous avez
les magnifiques affiches qui rappellent.
Qui sont donc en distribution bientôt, hein, normalement. J'en ai déposé aujourd'hui à Béthune.
Ah ouais?
Ah bah ça va cartonner.
Voilà.
Affiche réalisée par Kirou.
Ouais. Voilà.
Merci Kirou.
Merci Kirou.
Qui est cet homme?
Et qui c'est? Merci Kiki. Merci Kirou.
Il est à Cuba actuel.
Cuba. Tu peux pas le dire.
Non, il va pas rentrer.
Bah non, il va pas rentrer, c'est pour ça.
On
va appeler Kirou.
Kirou. Kirou Ong. Je laisse la parole à Von Imakov.
Von
Imakov, le grand
camarade.
Le grand camarade.
Ouais, pour
du
cette
narratif.
Chronique qui aurait pu s'arrêter la fois dernière, mais qui a pu exister grâce à Kirou. Donc merci à Kirou encore une fois d'avoir pu lire ma chronique au dernier podcast. Que l'inspecteur profite bien de ses vacances. Donc aujourd'hui, on va parler de l'immersion, et je vais parler de la campagne narrative Necromunda, qui a été menée par Greg Le Gob à la Forge Ludique. Elle a débuté fin 2018 pour s'achever il y a 2 semaines. Donc rendons hommage à notre arbitrator, il a quand même pris le risque d'écrire
gloire
ses...
Gloire à lui.
Ouais, gloire à lui, ouais. Il a écrit ses propres scénarios, il a pris le risque en fait de faire du scénario asymétrique et tout ça. Mmh. Et en créant des liens avec la campagne Pyrrhus 25 de 40 000 avec Dim ici présent, hein, en plus. Donc la campagne fut tellement appréciée qu'une nouvelle campagne va reprendre incessamment sous l'égide de Clémiche. Donc on le remercie par avance.
Un nouveau arbitrateur.
Bah, des parties jouées à la Forge cette année et demie, comme la majorité des joueurs, je vais garder un souvenir très vif et très clair, tout simplement parce qu'elles m'ont réellement raconté une histoire. Donc là, l'immersion, de quoi c'est venu? D'abord, on a fait des playtests en mi-2018. On a pris le temps de préparer des figurines, de tester plusieurs listes. Mon dévolu s'est jeté sur les puissants Vansar, adeptes de technologies de pointe et experts en tir à distance. À la lecture de leur historique, j'aimais à les imaginer comme des archéologues s'aventurant au plus profond de la dangereuse Spire Ludix, à la recherche d'anciennes technologies oubliées. Je couchais quelques récits sur le papier, tentant de donner vie à certains gangers et m'obligeant à m'immerger dans leur propre perception de cet environnement hostile. Dès le début, j'alimentais mes comptes rendus par des photographies prises au niveau des figurines. Je me suis rendu compte qu'elles donnaient corps à une ambiance particulière, comme si on entrait sous la ruche en compagnie de mon gang, les Cryptozookers. Les playtests montraient rapidement l'efficacité redoutable du Vansar. Je me décidai de me limiter dans mes choix en créant une liste de bandes sans aucune arme lourde, hein, une liste molle. C'était par mesure de fair play, par envie de jouer sur la résilience et l'accomplissement des objectifs, plutôt que sur l'efficacité au combat. Je voulais donner un caractère propre à chaque personnage du gang, un rôle précis, voire un comportement type dans certaines situations. À titre d'exemple, mon leader, superviseur, médecin et faiblement armé n'a jamais quitté la surface de jeu sans s'être assuré que tous les autres gangers étaient en sécurité derrière son bouclier énergétique. À chaque ganger en état critique en fin de partie, je cassais ma tirelire, je dépensais tous mes crédits pour lui sauver la vie, et ça m'a empêché plusieurs fois de m'acheter du matériel onéreux, et ça limitait l'efficacité du gang. Il faut le dire. Donc cette décision, ça m'a amené à perdre la majorité des scénarios joués.
Est-ce que c'est juste cette décision?
Chaque partie, c'était un coup dur à assumer, et puis c'est devenu, en fait, finalement, une histoire forte à forger, à la fois pessimiste et fondée sur la volonté de résister contre les forces chaotiques qui grandissaient. Hein. Parce que faut dire que le chaos nous a foutu dehors de la ruche, hein. C'est ce qui s'est passé à la fin.
C'est parce qu'on s'est ressenti sur la campagne de Warhammer 40 000.
Bah, peut-être. mais
c'est dans la ruche.
Par contre, ce qui était rigolo, c'était de constater que les autres joueurs percevaient différemment cette situation, parce que les Cryptozookers étaient assez craints et respectés, malgré leur inefficacité relative. En fait, j'ai l'impression que j'étais le seul à me rendre compte que je n'arrivais à aucun de mes objectifs
en fait,
dans
tu,
les parties.
En fait, tu poutrais, mais tu faisais pas les objets, c'est ça?
Non, j'essayais de faire les objets, je poutrais pas beaucoup, mais en fait, les autres avaient peur de la fiabilité des tirs des gangers, en fait. Ça, c'est quelque chose qui... Et je ne lâchais jamais le terrain. C'est-à-dire que c'est un truc... C'était un peu de l'esbrouf, c'était un peu du bluff, en fait. Donc, les crédits et les points d'expérience ont permis une légère progression en fin de campagne. Face aux innombrables démons corrompus, l'acquisition tardive d'un canon à plasma alimenta les rumeurs pour rendre cette crainte un peu plus tangible. Voilà, donc...
Guerre psychologique.
Ouais, guerre psychologique. Enfin, je vous fais peur, je ramène un canon, comme ça, bon bah...
Je fais peur avec un canon à plasma.
Ouais, c'est ça.
Enfin, un écrou, ouais.
Mais en fait, c'était le canon à plasma, c'était plus un choix narratif qu'une question d'efficacité. En fait, j'ai failli prendre un multifuseur, mais ça, c'était vraiment overcheaté. Et bah, depuis, les Cryptozookers ont dû quitter la Spire en catastrophe face aux incessantes infiltrations du chaos. Mmh. Ils arrivent dans une nouvelle Spire comme des parias, alors qu'ils ont toujours souhaité respecter l'ordre établi. Seul l'avenir nous dira de quel côté ils basculeront. Et j'ai envie de dire, voilà, moi c'est un super souvenir de campagne, parce que j'ai pris énormément de risques, j'ai joué n'importe comment, mais volontairement. Mmh. Vous, est-ce que ça vous est arrivé de jouer de cette façon-là, de jouer tellement fluff que finalement les choix de tactique, les choix de partie en étaient impactés?
Vas-y. Je me permets, pour ma part, à Frostgrave, oui, c'est complètement comme ça pour ma première bande qui est sur une invocatrice de démons. Je joue vraiment, mais je pourrais jouer beaucoup plus. Il y a des tactiques qui pourraient me permettre d'être beaucoup plus agressif, mais j'en fais avant tout une magicienne qui est surtout qui est en quête d'un objet magique et elle est pas là pour dessouder les autres, quoi. Ouais, carrément. Alors moi que,
ça a été pareil sur Frostgrave aussi, hein, tu vois, ma bande de samouraïs où ils étaient clairement là pour buter, quoi, pour buter. à tel point que je me suis fait maudire en fait à la fin, hein, parce que vraiment il y a eu ce délire là. Par contre, tu vois, sur 40 000, c'est plus complexe de faire ce que tu dis, de vraiment jouer. Je vois tout à fait ce que tu dis là, sur Necro. Tu vas dire, bah lui, forcément, si ce mec-là c'est son frère, et eh ben il va aller courir pour le sauver. Mais voilà, tu te racontes tout de suite cette histoire-là.
Moins de personnalité sur une armée.
40 000, c'est pour ça que pour le coup, tu vois, nous on a transvasé cet aspect très narratif dans les conseils de guerre. On est autour de la table où chaque joueur incarne le général de son armée et où, justement, alors c'est plus compliqué parce que là, du coup, le RP, il faut le faire toi.
Ouais.
Et c'est comme dans un jeu de rôle. Donc, il y a des moments où je devais être là pour garantir, est-ce que le gars dit pas de la merde, et je lui dis, attention, je te fais un rappel RP, tu dirais pas ça à un général Space Marine, quoi. Tu vois, je sais pas trop ce que tu peux invectiver, quoi, mais... Sur Necro, par contre, moi qui jouais deux lacs, mais j'ai joué que deux parties, j'avais écrit un fluff, etc. Mais j'avais écrit un fluff généraliste, tu vois. J'ai pas été dans le détail comme toi, où vraiment chaque mec avait sa personnalité. Par contre, c'est ce que je souhaite faire, tu vois, sans en avoir parlé, c'est ce que ce que je pense faire sur ma deuxième bande, du coup.
D'accord.
Et avec une réflexion. Sur une manière de jouer qui serait voilà, c'est comme
tu
ça.
Gardes la même bande?
Non.
Ah, tu dis pas, c'est secret, non, on sait pas.
Je le garde secret.
Ça, c'est la surprise.
Ouais. Ouais. Moi, de mon côté, tu vois, je pense que c'est une bonne excuse pour dire que je joue très mal. Donc ouais, moi je suis toujours ça en fait.
Ouais.
Mais c'est pas faux, parce que quand je t'ai vu jouer à 40 000,
moi je joue toujours comme ça en fait.
Tu joues en immersion.
Je joue en version cinématographique.
Ouais, c'est ça, ouais.
Qu'est-ce qui va faire que regarde, Terminator, ils sont super forts, bah ils vont au centre de la table et ils tiennent. C'est une mauvaise idée parce que tout le monde leur dit, on s'en fout, ils sont là pour tenir.
C'est les Terminators.
Ils sont en première ligne, ils défoncent toutes leurs mamans.
Propulsez-moi au centre de la bataille.
En fait, tu joues comme c'est écrit dans le White Dwarf en fait.
Comme c'est écrit dans les livres.
Déjà, le mec, c'est l'élite de l'humanité. Ouais.
C'est l'élite
de l'élite de Space Marine. C'est l'élite de l'élite de l'élite de la guerre.
Avec une grosse armure en plus.
Avec une grosse armure. Les gars, ils sont en première ligne, dans les bouquins. Les mecs, ils sont trois, ils défoncent toute une armée, ils valent 100 humains et tout ça. Bon, dans le jeu, en fait, tu mets un orc devant, il les défonce.
Tu t'es pris un coup de merde de Nurgle. Ouais, d'un point de vue du caractère, par contre, il y a moyen, à l'échelle des régiments, enfin des groupes de combat, qu'on ait un sergent ou un leader, en fait, qui soit un personnage aussi.
C'est ce qui a été fait sur la prise d'XP, en fait.
T'as une mortalité tellement forte. Enfin, si je prends l'exemple de 40 000, après, je joue pas très bien. Mais j'ai régulièrement mes unités qui se font défoncer, mais jusqu'à rien. Enfin, tu vois, t'aurais même pas le temps de dire, ah, le gars, je lui donne une personnalité et tout ça, il fait la première partie.
C'est défoncé, tu m'as la poubelle. Il y a peut-être aussi moins d'aléas dans 40 000, parce que dans Necromunda, il y a énormément d'aléas, en fait. Là, le scénario va t'amener sur des situations complètement barrées, du genre...
Ouais, en fait, je pense que dans Necro, tu vas pouvoir nommer tous tes gars, tu vas pouvoir dire chaque personne est réellement unique. Là, t'es sur une unité, ouais. Tu dis que cette unité-là, bah, je sais qu'elle va être sacrifiée.
Oui, peut-être.
Mais... Sur Necro, faire ça, tu fais oh, même si c'est un kid, c'est pas tu, vas, tu vas perdre 40 crédits. Tu, fais, oh,
là, tu personnifies complètement sur Necro.
Ouais, mais par exemple, moi, le jour où je me suis retrouvé avec ma bande au tapis, enfin tout le monde à l'hosto, en fait, j'avais la moitié de la bande à l'hosto, on a tiré un scénar où on jouait que la moitié de la bande.
Ouais. Aïe.
Donc, bah, je me suis retrouvé en supériorité face à ceux qui avaient alors, des kékés, en fait.
Tu vois, par exemple, c'est ce que j'ai un peu. Quand j'ai joué à Necro contre. Gimli,
ouais.
Je lui ai dit, mais t'es fou, pourquoi tu... Tu vois, il perdait toute sa bande, et, je... il... et en fait, je sais pas pourquoi. Il a... Je lui ai dit, bah viens, on arrête, c'est pas grave. On... Et je me souviens, mon premier scénar, enfin, par rapport à la létalité, le fait de garder... Parce qu'en fait, tu te lis pas de la même manière à ta bande de nécro qu'à une armée de 40 000. Une armée de 40 000, c'est l'aspect global. Ou
ouais.
Une armée en général et une bande sur un jeu d'escarmouche, tu vas beaucoup plus personnaliser tes feats parce que tu as plus de temps. Et du coup, tu arrives mieux à leur donner un nom et vraiment, tu es triste quand tu le perds. Quoi.
Et tu restes vraiment attaché. Quoi.
Ouais, ouais, c'est ça. Moi, mes samouraïs de Frostgrave.
Ouais. Comme tu as les faits campagne, tu les fais vivre vraiment sur plusieurs c'est parties. Ça, ouais. Tu fais putain, lui, je me souviens, la dernière fois, il avait fait un headshot, ouais, il est trop fort et tout ça. Puis là, tu fais, ah merde, il a glissé, il était deux étages. On fait chier, quoi.
Les morts cons de Necromunda.
Comme c'est en plus, on joue qu'en campagne, on les voit évoluer sur tout ça. L'armement qui vient en plus, etc. Et aussi, ils prennent de l'importance. Dans Frostgrave, moi, mon invocatrice a été niveau 1, maintenant elle est niveau 18. Il y a une aisance pour invoquer les démons, etc., pour gérer les parties. Tu vois, enfin, t'as vraiment l'impression que le personnage évolue, quoi. C'est...
Ouais.
T'as ce plaisir-là vraiment de s'attacher. C'est mi-RP, quoi.
Le jeu narratif, c'est bon, en fait.
Bah,
C'est ce côté-là du jeu. Tu aimes beaucoup tu parlais du côté cinématographique,
ouais.
Moi c'est enfin ma dernière partie de 40 000 là, narrative hein, je l'ai faite contre la garde, on a vraiment rigolé et on a vraiment vu l'histoire se dérouler et pour le coup on avait fait des parties, il y avait pas de points, les mecs ont débloqué, je leur ai dit vous venez vous prenez toutes vos figues, vous devez faire une liste 3000 points maximum,
c'est génial ça,
et j'aurais dit vous mettez alors sur la table vous mettez que les troupes et le soutien et les QG, mais tout le reste vous mettez pas. Pour les marines, j'ai dit tu mets que l'élite, que les troupes. Bon, les marines c'était pété, donc forcément là actuellement la campagne elle avait pris un petit coup derrière la tête à cause de ça, mais on l'avait déjà dit je crois sur le dernier podcast. Mais pour le coup on avait vraiment, ma partie que j'ai jouée contre un joueur garde impérial, je me suis complètement affranchi de la liste d'armée en fait. J'ai posé mes unités étaient prêtes et tout ça, mais j'ai posé des trucs. Et puis on a joué en vague, et puis je dis bah à chaque tour tu fais rentrer des mecs, tu choisis deux unités, tu les fais rentrer. Et on a réussi à vraiment se raconter un truc. Mais pour le coup tu peux pas raconter le racontage dans la durée, c'est sur l'histoire globale de la machin.
T'as pas la même échelle. Ouais. En fait,
t'as pas la même échelle et
globalement, enfin sur 40 000 tu vas faire une histoire sur tes chefs, ton sorcier.
Ouais c'est ça.
Et deux trois sergents d'unité et d'élite tu vois. Mais l'histoire elle se fait sur toute la table.
Ouais.
Tandis que là, dans Necro, elle se fait sur un couloir.
Mais Planet Wargame avait fait un super rapport de bataille hyper narratif avec une inquisitrice. Mais aussi parce que
la revanche des Minetti.
De la même façon, t'avais qu'un seul personnage.
Ouais, mais alors, en fait, ils avaient posé un contexte historique avec des objectifs spécifiques à ce scénario-là, qui faisait qu'il y avait un réel enjeu. Et en même temps, la façon de jouer était de jouer fluff, en fait.
Il a joué, je me souviens, il y avait un Land Raider.
Ouais.
Je crois que j'ai déjà dit en plus dans le podcast.
Il est parti en retraite.
Parce qu'il dit non, c'est trop chaud. Inquisiteur, et je laisse la garde. Et
il a laissé la garde, c'est sur place.
Et ça, c'est du vrai jeu narratif. Mais alors, du coup, tu vois, pour le côté podcast et interactif, moi, j'aimerais bien que les gens qui écoutent là, ils mettent en commentaire. S'il y en a beaucoup, je pense pas qu'on est hyper nombreux à être écoutés. Là,
tu les veux en milliers? Je pense qu'on est à moins de 1 millier.
Ouais, non. Et pas forcément, ce soir, tu vois.
C'est déjà pas mal.
En replay, pour ceux qui vont écouter le podcast, c'est de dire, comment, est-ce que déjà, on n'a pas cette statistique du nombre de joueurs qui jouent narratif. comment ils entendent dire jouer narratif, parce que par exemple Necro, tu vois, toi t'as mis des noms sur tes mecs, etc. Mais tu pourrais très bien dire joue narratif, je prends que les scénarios du bouquin, je fais que les scénarios du bouquin, j'avance l'XP, mais je m'en tape, lui il crève, c'est pas
grave. Non, mais on peut jouer comme
je
ça.
Le remplace par un autre gars, on mais du coup jouer. Tu vois, le mec va te dire bah, je fais du narratif, je l'ai fait évoluer. Donc voilà.
Non, non,
mais
il y a différents niveaux.
Après, mais il y a le scénario maison, le machin.
Je pense qu'à 40 000, tu pourrais ajouter une constante de mortalité des unités sur une campagne. Par exemple, dire, je dis n'importe quoi, mais tout comme on a des jets de trauma en fin de partie sur les gangers qui sont hors course, en fait, on peut très bien avoir une gestion des unités comme on avait des points de gestion de campagne aussi à MechWarrior. On pouvait avancer une demi-unité ou une unité entière suivant ce qui s'était passé avant, en fait.
Ouais, le problème. Je pense pour 40 000 déjà que la gestion derrière va être difficile. Ouais. Et en plus, imaginons, tu fais un système d'XP sur une unité, bah, tu vas rajouter, je sais pas, un en tir, et l'unité va être pétée. Quoi.
Ouais, c'est ça. C'est... Toi, en fait, dès que tu touches un paramètre du jeu, ça défonce tout. Alors, tu peux le faire sur les QG.
Ouais, c'est ça, sur un personnage.
Parce que ça te fait comme un héros, en fait.
Parce qu'il y a un système d'XP, je pense.
Oui, il y a un système d'XP à l'unité et tout ça. Ouais. Ils deviennent, mais il faut accumuler pas mal d'XP. Et ça te donne des petits bonus, mais ils sont moins pétés, les bonus. C'est dans Chapter Approved de 2018 où t'as carrément un tableau et tout ça. On l'a suivi pour la campagne, mais la logistique, elle est juste démentielle.
Ouais, c'est
quoi.
Compliqué. En fait.
C'est juste démentiel.
C'est vachement plus compliqué que ta feuille Necro. Ou
tu vois, Necro, tu sais,
c'est simple à utiliser.
Tu sais même te souvenir ton mec, en fait, justement, tu vois. Tu sais même te souvenir que Richard machin, il a buté au snipe tel mec. Tu te souviens?
À 40 000, ton unité, elle va se faire défoncer, elle va prendre plein la gueule.
Voilà, c'est ça.
Et tu vas pas forcément le douter tout le temps, tu vois.
Et tu vas te dire, tu vois, la plupart du temps, tu vas tirer en masse, sur la même unité. Et du coup, t'as du mal à te souvenir qui a donné le deadly shot, l'ultimate, quoi, tu vois. Et pour le coup, tu vois, là, on parle beaucoup de 40 000 machins, etc. On s'est longuement posé la question avec Greg sur War Machine quand on a arrêté de jouer parce que c'était devenu vraiment trop compète et vraiment trop pété. On a dit mais pourquoi pas on se mettrait à jouer que toi et moi en mode campagne. J'y viens, on va faire une histoire. Et on avait débuté un truc autour des trolls et
ça
puis des scorns. Et on l'a trolls et Ménotes. Et ça s'est jamais fait. Et c'est dommage. Bon là après.
Il n'y a pas d'exemple américain.
Bah les Américains jouent en compète quoi. Uniquement, franchement, c'est tu vois les rapports de bataille sur Advanced Manoeuvre. Les mecs, alors ils essayent de produire du contenu un peu fluff, etc. Mais quand même globalement, on est on a la table, les objets en 2D et puis blam 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 quoi.
C'est orienté sur la mécanique du jeu.
C'est ça. C'est le jeu, il est quand t'as une règle qui est très parfaite, j'ai l'impression, tu peux moins faire de fluff. Parce que justement, les règles, elles sont hyper carrées, etc. Et du coup, c'est des jeux qui sont destinés à ça.
Où il faudrait un système de règles qui gère, en fait, une mécanique qui gère des aspects narratifs, en fait. Comme dans Necromunda, les systèmes d'évolution, etc. Blessures.
Mais c'est pas évident parce que tu te retrouves vite à être engagé dans des discussions avec tes joueurs.
D'équilibrage.
Ouais, tout à fait.
Ah, c'est pas équilibré. Il y a la ruche qui s'effondre, fait chier.
Il y a eu ça, on va le
revoir. Mais il y a des choses qui ne sont pas forcément faciles.
C'est peut-être une question d'habitude aussi.
Oui.
Il y a une question d'habitude.
Et de confort de règles. Tu joues, tu as tes points d'armée, tu sais que le gars en face, il y a les mêmes points d'armée. Bah, tu sais comment ça se passe, surtout à 40 000, tu sais comment ça va se passer. Quoi. Tu commences à mettre des aléatoires, des gars qui sont un peu spéciaux, des trucs qui apparaissent à un moment donné. Ah merde.
D'ailleurs, on rencontre le problème actuellement sur Warcry, parce que Warcry qui vend une quête narrative, j'ai quand même beaucoup de joueurs qui me disent finalement c'est pas si narratif que ça. Ça sera le sujet d'une autre chronique en fait. Ouais. Et qui d'ailleurs reviennent sur l'équilibrage en disant je ne peux pas gagner en fait. Donc j'ai quand même beaucoup de joueurs qui sont dans une attente d'équilibrage. Et j'ai envie de dire, mais mecs, ça, faut laisser tomber.
Après, ils ont peut-être pas, parce qu'il y a beaucoup de joueurs, justement, le défaut d'un joueur narratif. C'est qu'il va regarder ces trucs sans regarder trop les caracs. Il faut regarder un peu les caracs quand même.
Le challenge reste à relever.
Je coupe court aux gens qui pourraient se dire oui, enfin les joueurs narratifs, et de toute façon tu joues mou, etc. Alors oui,
je fais exprès de jouer mou. Voilà. C'est pas pareil.
Le truc c'est que tu regardes quand même. Après moi, je sais pas, j'ai choisi ma faction à 40 000 à Necro parce qu'il me plaisait. Juste, il me plaisait. Après, tu regardes ce que tu peux faire.
Au niveau du look.
Et puis de l'historique, de tout ce que dégage en charisme la bande ou l'armée, mais dans tous les jeux que je fais, même en histo, tu vois, même en historique. Et pourtant, tu pourrais te dire en histo, voilà, bon, après, ça fait un peu bizarre de dire ça quand tu joues allemand, mais t'aimes bien, ouais, t'aimes bien les uniformes, etc., voilà, mais.
J'aime beaucoup l'immersion dans le, dans les Reich.
Mais le, par contre, tu vois, là, sur la guerre de 30 ans, il y a le côté, les troupes un peu, emblématiques, qui vont te, enfin, tu lis au détour d'un article, pour moi, c'est la cavalerie finnoise, tu vois, qui vraiment, je dis, putain, c'est badass, le truc et tout ça, donc tu dis, bon, allez, tu fais cette armée-là aussi pour ces raisons-là. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs narratifs qui regardent que ça, puis après, c'est tout. Ils regardent pas les caracs, en fait.
D'ailleurs, est-ce que le jeu histo n'est pas le jeu narratif par excellence, en fait?
Je pense, ouais.
C'est ça qui est intéressant aussi. Hein.
T'es très cadré dans ton histoire, mais
dans le jeu histo, il y a beaucoup de règles où tu vas introduire beaucoup d'aléatoires. Ça va être le ravitaillement, ça va être. Il y a beaucoup de la logistique qui est énorme dans l'armée. Ça va être un des paramètres.
Il y a des jeux qui le
dans les wargames.
Ouais, il y a des jeux qui le prennent en compte, d'autres jeux qui le
surtout napoléonien. Napoléon Piquet Chuck, je sais pas, mais pour napoléonien, ils ont des règles très complexes, très lourdes je crois à gérer ce genre de choses, aller à la météo, etc.
Il y a eu
des jeux comme ça qui avaient des petits aléatoires assez sympas, comme je me souviens de Fantasy Warriors, jeu de masse. Comme Steel Warhammer qui était sorti chez Grenadier, où tu pouvais jouer la météo la nuit, le jour, mais c'était généré de façon systématique dans chaque partie. Voilà.
Ça me fait penser.
Il y avait la haine face au truc.
Spectre, ouais. C'est très narratif, en fait.
C'est très narratif. C'est déséquilibré par défaut, du coup.
T'es de la force spéciale.
T'es obligé de faire un truc qui explique une histoire.
Mission impossible. Ouais,
si tu fais de l'affrontement sur Bolt, on a discuté sur les Facebook, etc. Et t'as des mecs qui vont dire, après, il y a des joueurs, ça leur pose pas de problème, de jouer anglais versus USA. Voilà, moi, perso,
C'est l'entraînement.
Ouais, c'est ça. C'est
l'intérêt. Aujourd'hui, les joueurs se justifient plus, en fait. Ils justifient plus. Ils posent des figues, ils veulent jouer. Point. Après, c'est honorable, Maintenant, moi j'ai un peu de mal avec ça. Après, voilà.
Faut dire un truc, c'est qu'on est dans un jeu d'opposition, d'affrontement. Mm-hmm. Rien que ça te restreint le cadre énormément. Mm-hmm. Parce si tu vas introduire une narrative dans un jeu de confrontation, il faut apporter des éléments. Alors, soit c'est déjà prévu dans les règles, etc. Soit il faut le faire soi-même.
Alors, des éléments d'interactivité.
Ouais, par exemple, je reviens sur Frostgrave. Ok, mais Frostgrave, par exemple, c'est à la fois, bien sûr, tu peux te friter avec ton adversaire, mais c'est aussi un jeu d'aventure.
Et tu joues.
C'est de la chasse au trésor. Ouais.
Tu peux faire de la coop à des moments.
T'as beaucoup de scénarios où tu dois, t'as de l'archéothèque à aller chercher. Ouais. Tu vois, c'est aussi, en fait,
ça ressemble un peu.
En fait, on est plus dans la rivalité que de la confrontation pure. Ouais. Tu vas, bien sûr, arriver sur un théâtre d'opération où y a des gars qui veulent la même chose que toi. Mais ce que tu veux pas, c'est pas forcément annihiler ce qui est en face, c'est acquérir de la richesse, acquérir de un objet. Bon, après, dans 40 000, souvent, il y a des
objectifs.
Le narratif, il est...
C'est extrêmement complexe à rentrer.
C'est pour ça que je pense que des jeux comme Spectre, où là, tu vas libérer un étage, tu as un objectif. Là, qui n'est pas l'annihilation, mais l'objectif.
L'idée est sur Spectre.
Et là, tu rentres vraiment dans le narratif.
Parce qu'on est tous les deux sur le truc, on est encore, c'est encore en projet, c'est pas encore bien établi.
Un jour.
Mais l'idée, c'est de. Enfin, moi, l'idée que j'avais en tête, c'est carrément l'Operation Room. Le mec, il dit bon, ok, on regarde la map avant, et on joue à deux, en coop. C'est-à-dire qu'on a deux équipes de forces spéciales, on gère l'IA du jeu. Ou alors on fait appel à un...
Il y a une IA dans le jeu.
Il y a
une IA.
Bon, je pense qu'il y a des IA dans le jeu.
Il y a des IA dans le jeu.
Dans la V2, il y a un système de ronde, en fait. Ouais. Du style, t'es dans un fil d'infiltration et t'as les gardes qui font des rondes à deux balles.
D'accord.
T'as des systèmes comme ça.
Parce que moi, c'est le film de Zero Dark Thirty qui m'a vraiment relancé sur le jeu Spectre. J'ai regardé le film au détour d'une soirée. Je fais punaise, allez, je vais regarder.
Et c'était
hyper. C'est génial. Le film est très bon. Et je me suis dit putain, c'est vrai que ça donne envie de jouer à Spectre. Quoi.
Pour le coup, il faudrait vraiment que vous essayiez un vieux jeu sorti de nulle part, qui est une règle française qui est apparue dans les années 90, qui s'appelle Duel Moderne, qui est, je dirais, t'as l'impression de jouer à un jeu de rôle en fait.
Ouais.
Hein, c'est basé sur un D20.
C'est ça qui m'avait
et un peu refroidi,
c'était trop complexe.
Ah, nous, on essaie
en fait, ça ne l'est pas tant que ça. Le jeu est assez fluide.
C'est vrai.
Ouais. Mais ce qui est très intéressant dans le jeu, par exemple, c'est que ta figurine, elle va rarement être vue, elle va être entendue. Ouais. Et ça, c'est tout et, ça change tout.
Et
ça
tu change peux, tout. Alors, t'as énormément d'armement disponible, et surtout, tu peux tirer chaque carac au dé.
Ouais.
Et si tu es une force spéciale, tu auras bien sûr des bonus, bonus ouais. Mais comme un jeu de rôle. Quoi. Et tu peux jouer deux figurines.
Il y a un setup SF hein, dans le jeu.
Il
hein.
y a un setup ouais. SF aussi qui n'est pas excellent, mais qui est très déséquilibré. Mais par contre, le côté moderne, c'est cool. Il a l'air cool. Quoi.
Ok. Voilà. Alors, le narratif, on va pouvoir en parler des heures et des heures.
Ouais.
Bah, par contre, ici, le temps tourne. Ah. Donc, on va passer peut-être à ta rubrique, Dim.
Ok. Ça marche. Vas-y.
Bienvenue.
C'était pas la bonne musique.
Oui. Merde. Ah la loose.
Ah bien.
Bienvenue dans le monde de Mutant Chronicle. Un monde obscur où les méga corporations s'affrontent. Où la Terre n'est que ruine et le système solaire colonisé est peuplé de forces obscures. D'apôtres noirs. Et je vais vous parler de ce monde disparu, du monde de la figurine. Tu peux couper la musique. Oh, et c'est une voix ténébreuse. Alors voilà, je voulais parler d'un univers, globalement, l'univers de Mutant Chronicle, dont le jeu Warzone est issu. C'est un jeu de figurines qui a été lancé dans les années 90. Mm-hmm. 92 pour être plus exact, je pense, pour la première version qui a été suivie dans sa V2. Là, vous voyez, c'est un bouquin
c'est
de la V2. C'est hyper alors là, attention, hein, c'est hyper oldies hein, les dessins. Donc, tu m'as dit l'illustrateur.
Alors, l'illustrateur principal qui a vraiment beaucoup contribué à la mise en image de cet univers, c'est Paul Bonheur qui est un illustrateur hyper connu aujourd'hui qui a commencé chez Games Workshop et qui s'est affranchi, qui est devenu freelance, qui est vu au Danemark. Et il avait été contacté à l'époque par ces gens-là pour parce que le jeu à la base Warzone ça vient de je crois de Suède ou enfin de Scandinavie et lui il vivait déjà là-bas donc il a été contacté par eux et tiens, il a ouais. développé tout un visuel il a une
c'est
marque
cette magnifique
très très il a une patte ce gars-là
ouais c'est et, ça c'est cette patte là un peu shiny
ouais qui est, enfin,
il est... c'est un samouraï là
c'est un oui. samouraï ouais, ouais, dans ouais. un véhicule ouais. d'eau qui affronte une créature de la symétrie obscure.
Alors, si je me souviens bien,
sur la planète
c'est
Vénus.
Un émasculateur mercurien.
Oui, c'est ça.
ils avaient des noms, pas possible.
Oui, non, mais ils ont des. Alors, on y va, on a la troupe qui est là. Hein. C'est le Dragon Bike Mishima.
Ah ouais, et le monstre aussi, puisque c'est sur un émasculateur.
Je vais vous donner les noms d'illustrateurs parce que je les ai là. Il y a Paolo Parente, Alex oui. Orly et bon, Paul Bonheur.
Paolo Parente, on connaît.
C'est des petits canards hein, sur son truc.
Oui. Oui oui c'est un dragon tu sais un dragon style chinois quoi.
Regarde, remets les trucs jaunes là sur l'écran.
Attends. La figurine. Ouais alors il y a des trucs un peu ridicules hein. On était dans les années 90 faut pas oublier hein. Niveau figurine on n'avait pas la résine.
Alors le souci ouais c'est ça le problème c'est qu'ils avaient des super illustrations. Mais dès que tu voyais les
j'ai pas capté.
Donc, oui, d'accord.
Alors, ouais. Je voulais parler du fluff plus généralement. En fait, l'histoire du jeu, c'est que ça peut un peu se rapprocher de 40 000. Hein, ils étaient concurrents avec Warhammer 40 000. Mais en gros, on est dans un univers SF où la Terre, elle est complètement ravagée, polluée, etc. Les pays n'existent plus. Tout est dirigé par des méga corporations qui regroupent plus ou moins des sphères d'influence culturelle et de pays, on va dire, et chacun, en gros, s'est vu attribuer une planète, parce qu'à un moment, c'était trop le bordel, ils se sont fait la guerre, et le cartel qui régit un peu les relations avec toutes ces méga-corporations a décidé de dire, ok, les gars, chacun va avoir sa petite planète à gérer, et voilà, vous êtes sur vos planètes, donc Capitole, qui représente un peu les États-Unis, je sais pas si t'as la photo, Capitole.
Ah oui, tu veux les photos, ça.
On va voir un peu l'imagerie de Capitole qui représente un peu les États-Unis. Eux vivent exclusivement et ont terraformé. Donc ça, c'est la boîte que vous aviez en V2. Voilà. Donc ça, c'est Capitole, voilà. Donc on voit le drapeau. Hein,
America.
C'est America, fuck yeah. Voilà. Et donc avec le gros bonhomme, le gros black avec les deux mitrailleuses que je montrerai dans sa version la plus récente. Hein, j'ai ramené la figurine. Donc Capitol, c'était Mars. Ensuite ça c'est Cybertronic. Cybertronic, eux, ils sont arrivés un peu plus tardivement. En fait c'est des cybernétiques et ils ont voulu utiliser Ganymède, mais ils se sont fait épingler par tout le reste. Je vais expliquer par la suite parce que ça vient après dans le fluff. Ça donc à droite c'est Impérial, donc les Blood Barretts. Ceux qui ont connu le jeu de plateau Blood Barretts, c'est par là que je suis rentré dans Warzone, connaissent donc cette illustration qui était l'illustration du jeu de plateau. Ensuite on a vas-y passe à l'image suivante, Mishima, donc qui était la méga corporation asiatique, on va dire. Là encore c'est un peu what the fuck, hein. On est quand même sur des drôles de trucs, ouais, c'est, hein. C'est assez particulier. En tout cas dans cette version là des années 90, c'est assez particulier. Par contre, ce qu'ils en ont fait par la suite, parce qu'après ça a été récupéré par Prodos Game, ça c'est les méchants, la symétrie obscure. Et donc je vais en venir, ouais, la symétrie obscure.
Ouais.
Et en fait, comment a été dévoilée la symétrie obscure ? C'est un peu le chaos de Mutant Chronicles. En gros, Impérial, qui est la faction des Anglais, en gros, là, que vous avez vu avec les Blood Barretts, ils n'avaient pas vraiment de planète. Et ils ont dit, on leur a laissé la ceinture d'astéroïdes à exploiter. C'est pas super funky, quoi. Et ils ont découvert une tablette ancienne. Et une tablette ancienne. Ouais. Et en gros, cette tablette ancienne, elle a libéré un pouvoir obscur. Et donc ils ont dit, ok, on laisse tomber, on touche pas à ça. Et en fait, ils ont été explorer Pluton, donc à l'époque la 9e planète du système solaire. Et ils ont libéré un sceau qui a un sceau de, je sais plus quoi, de, il y a un nom particulier.
Un sceau
d'eau. C'est pas un sceau de pureté, un sceau d'eau. Non, un sceau d'obscurité. Et ouais, c'est un peu ça en fait. Les conquistadors impériaux libèrent le pouvoir de la puissance obscure et ça défonce tout parce que le problème, et c'est là que c'est rigolo et qu'il y a un petit côté, on va dire, militant dans ce jeu, c'est que ça fout le bordel dans les corporations parce qu'en gros, la symétrie obscure défonce tout les machines pensantes. Parce que c'est des technologies très avancées au départ, et ça efface tous les titres de propriété. Donc, en fait, plus personne ne peut revendiquer clairement un territoire, ce qui relance les guerres de corporations, en fait. Et donc, les différentes méga-corporations se réaffrontent une deuxième fois, notamment Vénus et Mars. Sur Vénus, donc c'est devenu une jungle, hein, ça a été terraformé, etc. Et c'est plutôt les Bauhaus qui sont les Allemands, en fait, du jeu. Si tu as l'illustration, c'est le mec sur le cheval. Ça c'est Impérial, donc les Trenchers, et donc ça c'est un Bauhaus, donc qui monte sur un dinosaure, hein, quand même.
Ah ouais.
Sur Vénus, ouais, il y avait des troupes, hein, sur le dinosaure. Cool. Et si tu mets le suivant, c'est encore sur Vénus, et donc là le petit cheval. Cette figurine, elle a été ressortie à l'occasion de la nouvelle version de Warzone.
Et le crâne avec les cornes bizarres.
Alors ça c'est un néphrite de la symétrie obscure. En gros, les méchants, ils ont des légionnaires de base qui sont des zombies, et après dans la symétrie obscure tu as des apôtres noirs qui représentent un aspect de la symétrie obscure.
D'accord
donc bon, la destruction, la guerre.
Ce genre de gars, il doit changer de d'oreiller tous les trucs.
Ouais, ça doit pas être super pratique. Et donc du coup,
je termine pour la petite histoire.
Ah, en gros, chaque méga corporation, il y a pas vraiment de pouvoir comme dans Warhammer 40 000, il y a un peu de pouvoir psy, mais vaguement. Il y a un clergé qui est la confrérie, mais c'est pas hyper représenté comme dans 40 000. C'est pas gothique en tout cas, au même sens que 40 000. Et c'est en ça que ça se démarquait à l'époque.
C'est plus de l'anticipation. En fait.
C'est de l'anticipation de la vraie. Et c'est ça qui m'avait
et
vraiment plu.
Et visuellement, t'as pas de Space Marine, t'as des gars, t'as des. Enfin, je veux dire, c'est très sympa de voir par exemple les troupes Capitol ou Blood Barretts, qui sont très emblématiques de ce jeu-là.
Ça.
Qui sont des vrais militaires, qui sont pas des gars avec des sauts, des croix, enfin je sais pas quoi.
Il est en collant en fait, c'est un collant et donc derrière on a le robot de Cybertronic en fait, qui est une corporation un peu à la marge. Hein. Cybertronic est détesté.
Je suis passé complètement à côté de ce jeu.
Ouais, mais en fait moi j'ai connu par Blood Barretts en fait, et en voyant dans le jeu, il t'offrait les cartes des Bauhaus en fait et des Rangers vénusiens.
Ouais.
Et en fait l'idée, enfin ce qui me séduisait plus par rapport à 40 000, c'est que du coup, en fait, c'était ça s'ancrait dans la réalité, en fait, puisque t'es dans le système solaire,
ouais.
T'es pas dans la galaxie lointaine, etc. T'es très ancré, c'est très réaliste, en fait. Alors, ok, il y a des mecs avec des flingues sur le dos, etc.
Ce qui est cool sur Infinity aussi.
C'est, voilà. Eh ben, alors, tu ressens un peu ce truc-là. Bon, alors, peut-être moins tech que, ouais. c'est un peu plus low tech que Infinity. Parce que là, t'es vraiment dans des mecs qui tirent avec des grosses mitrailleuses. T'as pas de canon laser, en fait. T'as des missiles, t'as des véhicules, des gros véhicules. Voilà, les mecs, ils ont des casques à pointe.
Bon, t'as des trucs un peu techno-barbare, des trucs comme ça, ouais, sort d'écossais.
Alors, il faut remettre les choses dans leur contexte, parce que moi, j'ai découvert Warzone en même temps que Warhammer 40 000, donc j'ai presque fait un choix entre les deux.
Ouais.
J'avais pas assez d'argent pour pratiquer aucun des deux jeux, en fait. Donc, mais clairement, on est dans des influences artistiques beaucoup plus proches de considérations à nous. On est sur la Première Guerre mondiale, déjà.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est ce que tu
donc,
vois.
Donc, moi, quand je suis tombé devant ça, c'était à Rocambole, à Lille, rue de la Clé.
Ah, putain, ouais, si, c'était à Rocambole.
Moi, je suis tombé devant ça.
Ouais.
Il y avait les visuels de 40 000 dessinés par John Blanche qui me faisaient aucun effet. Et je tombais là-dessus, j'étais en pamoison.
Ça se défonce,
en fait.
Hein, ouais. C'est
parce que, et en fait, en remettant les choses dans leur contexte, la direction artistique, et même pour les figurines, qui étaient relativement comparables en termes de qualité, ouais. Ils allaient plus loin, et moi je reprochais beaucoup à Games Workshop de pomper Terminator, Alien, etc. Enfin, toutes les références qu'on peut connaître maintenant, qui sont dans le pulp, les références de ciné, en fait, sans jamais l'admettre. Alors que Warzone, bah, c'était, on allait imaginer des choses un peu nouvelles. Moi, c'est ça que j'aimais beaucoup, en fait, à l'époque.
Moi, j'ai découvert Warzone dès que ça parut. Les toutes premières figurines en métal qui étaient assez bulky, ouais. Alors c'était quand même à l'époque une alternative avec 40 000, c'était très observé. Ça a pas marché, la première édition a pas marché. La deuxième édition est arrivée avec une grosse boîte, ouais. Là par contre, où il y avait des boss et des, ouais,
et les impériaux.
On trouve encore,
les figurines qui étaient en plastique, et la boîte était pas chère, le système était vraiment pas mal. Ouais. Le petit souci, ce qui fait que je pense qu'il s'est un peu péché, c'est que on avait des superbes illustrations pour ce jeu-là, mais par contre, la sculpture des figurines métal, elle était vraiment pas bonne. Mais bah, vraiment pas bonne.
Il y avait du bon et du moins bon.
Il y a quelques gars qui ont pu, chez Boss, notamment, sauver un peu les meubles. Je pense notamment à Kev White, qui faisait ses premières armes avant de devenir vraiment ce qu'il est aujourd'hui.
Donc Hasselfree maintenant.
Donc il avait fait notamment. C'est dommage. J'aurais ramené. Je pense notamment au Ranger Vénusien, au Jungle Commando Boss, qui sont magnifiques.
Ouais.
Qui sont vraiment magnifiques. Encore aujourd'hui, hein. Alors je crois que je vais avoir une fille.
Attends, si tu compares à du Space Marine Metal de l'époque, certaines.
Oui, ça se vaut, hein.
Ça se vaut largement.
Bon, si,
Alors là, vous avez du bol. Là, je vais vous montrer un.
Je vais te montrer des Mishima.
Un mitrailleur. Alors de l'époque, sa deuxième édition. Ça, c'est une figurine qui a été sculptée donc, par Kev White, ça se voit tout de suite. Elle est absolument. Mais. Elle est magnifique,
elle est
quoi.
Cool, hein.
Elle a une double Gatling, et puis il serre bien les fesses, là, tu vois. là, par contre, ça donne vraiment l'impression que ça sort d'une use de Paul Bonheur, là, ouais. Vraiment.
Il y a certaines figurines
qui étaient très inégales.
Ouais, elles étaient très
inégales. Celle de la symétrie obscure,
La figurine que tu montres est vraiment top. Là, j'allais montrer une inu des figurines Mishima, par contre.
Et pour le coup, c'est vrai que quand Prodos a repris.
Ouais.
La licence, eux, ils ont voulu rendre justice aux illustrations de Paul Bonheur. Bon, pas que Paul Bonheur, hein, il y a aussi Parente, etc.
Ouais.
Et là, ils ont commencé aussi à sortir des figurines qui étaient très intéressantes. Hein.
Ouais, je l'ai ramené, je l'ai montré tout à l'heure, la figurine de Big Bob Watts, donc là, avec les deux Gatling. Je vais vous montrer la figure. Et, l'illu, elle est ici. Alors, attends. Tu peux remettre l'illustration Capitole. Que tu as dans le PC si tu peux.
Oui, oui.
Tac. Voilà. Alors, vous voyez le mec avec les deux mitrailleuses. Voilà. Ça, c'était l'illustration originale.
Qui est derrière. Il est en arrière-plan.
Donc,
pour le décrire, en gros, hein, il a deux espèces de Gatling sur les épaules.
Voilà. Ah oui, ouais, ça va être très visuel. Voilà. C'est vrai que je pense pas aux gens qui écoutent.
Pour un podcast,
et donc, du coup, la figurine de chez Prodos, ils ont décidé, le gros changement sur la figurine résine, c'est qu'ils sont passés sur les deux Gatling dans la main. Et puis donc voilà, Ça, c'est Big Bob Watts. Donc, on le voit là en vrai, on dirait qu'il va se chier dessus, en fait.
Non, mais ce qui est quand même très très fort, c'est ces expressions qui ouais. à la fois, ouais.
on Ils est sont à toujours la fois crispés, dans un peu en fait.
Complètement barré, et à la fois des expressions humaines qui sont saisissantes, quoi. Les illustrations de Paul Bonheur,
c'est très expressif.
Cet univers-là, hein, c'est d'une qualualité extraordinaire et pour moi, l'époque en plus. Quoi. Moi, ça a 20 ans ces machins.
L'ambiance que ça m'a instillé, ça m'a instillé la même ambiance que Alien 2 et Total Recall. Ouais. Vraiment, j'ai.
Et sans être des plagiats.
Sans être des plagiats, c'est du ça tout, qui est intéressant. Quoi. Ah oui, il n'y a aucun truc dedans, mais.
Une grosse dimension, c'est un peu comics, un peu ça. On se prend pas au sérieux. J'adore, moi, le gars qui se prend. Le zombie qui se prend un gros coup de.
Un
pompe dans la tronche, et puis le gars qui te regarde, j'adore. C'est génial, c'est l'impression d'être dans une jaquette de film de Romero, quoi.
Et pourtant, le fluff, pour le coup, il est très fouillé, puisque à la base, c'est un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle, et ils ont sorti un jeu de figurines. Ouais. C'est un jeu de rôle à la base. Alors, aujourd'hui, pour clôturer un peu la chronique, donc Prodos, j'ai été voir leur site, il existe toujours, mais je pense que le jeu est terminé. Je pense qu'ils ont abandonné, ça leur coûtait peut-être trop cher en licence, je sais pas trop.
Non, c'est parce que déjà
le système de jeu, il était assez imbuvable. Hein. J'ai testé, j'ai joué, j'ai essayé. C'est beaucoup de règles, ça ressemblait fort à Dystopian Wars avec plein de règles, plein d'exceptions à la règle, etc. Il fallait plein de livres. Alors l'avantage, c'est que les livres, il est laissé en PDF, donc c'était plutôt sympa de leur part. C'est une boîte polonaise qui avait repris Prodos Game et qui faisait donc en résine. La résine n'était pas trop dégueu. Alors par contre, c'était du True Scale comparé à l'Heroic Scale qu'on avait avant. Hein. Donc pour ceux qui savent pas, Heroic Scale, c'est les figurines qui ont des proportions qui sont pas réalistes, mais exagérées.
Des gros points, des grosses têtes.
Par contre, le True Scale, c'est ce qu'on voit sur Infinity, par exemple. C'est très réaliste, c'est-à-dire que c'est une proportion, on prend l'échelle et hop, on est à l'échelle.
Ce sont des canons héroïques, en fait, ces figurines assez allongées, avec des petites têtes.
Et puis pour Prodos, je pense que ça se justifie aussi par le fait qu'ils scutaient tout en 3D, donc je pense que c'était plus facile pour eux de gérer en
True Scale. Et alors, le truc, alors je sais pas pourquoi le jeu s'est arrêté, mais voilà. Et alors, là, l'actualité pour l'univers de Warzone, pour moi, c'est la ressortie du livre de jeu de rôle, Warzone Mutant Chronicle. Il est ressorti en anglais. Vous l'avez en dispo chez Philibert.
Très bonne nouvelle, ça.
Très bonne nouvelle. Ça. C'est ressorti. Donc, j'ai hésité. J'avais les doigts qui m'ont brûlé, les amis, parce que on a déjà joué au jeu de rôle ensemble. Ça m'a tenté. Mais bon, je reste quand même sur Dark Heresy qui est bien mieux. Mais
avoir Warzone. Ce sont des plaisirs différents.
On arrive à bientôt une heure de podcast. Il faut qu'on passe à la chronique de David.
Oui, ouais, alors moi je voulais aborder tout le monde va me reconnaître. Moi j'ai passé sur un jeu qui a beaucoup marqué à son époque et encore aujourd'hui, qui est Space Hulk, qui est un jeu de plateau donc avec figurines dans l'univers de Warhammer 40 000, avec la spécificité il s'agit d'une sorte de dungeon crawling en plus ou moins SF. Hein. C'est un jeu qui a connu quand même 4 éditions, 89, 96, 2009, 2014, sachant que là je voudrais plutôt me concentrer sur la V1, qui est peut-être la plus légendaire, je dirais, parce que ça a été pour beaucoup un produit d'appel dans cet univers-là à cette époque, apparu donc en 89 avec une traduction française aux alentours des débuts des 90. Traduit par ce qui devait devenir Games Workshop France, mais à l'époque ça s'appelait Agmat. Donc qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte rien d'autre que la confrontation de Terminator et de Genesis dans les couleurs exiguës des Space Hulk. Les Space Hulk qui sont des épaves géantes de vaisseaux qui dérivent comme ça dans l'espace. Et donc c'est un jeu qui a, comme je disais, qui a connu 4 éditions, qui a connu 2 éditions en jeu vidéo, 2 extensions, des bouquins de campagne, donc qui a généré énormément de matériel de la part de Games Workshop, à la fois donc en extension, mais aussi à travers la parution régulière dans White Dwarf.
Et qui fait un carton dès qu'elle sort, en fait, aussi.
Dès qu'il y a une nouvelle édition. Alors, c'est marrant, c'est que les anciennes éditions ont énormément de rejouabilité. C'est-à-dire que c'est un jeu, aujourd'hui,
Tu peux rejouer.
Je peux rejouer. Moi, j'ai un matos de dingue. Hein. J'ai le Space Hulk 1, j'ai des swings, enfin, j'ai toutes les extensions. Tu peux jouer en solo, tu peux jouer complètement en aléatoire. T'as des campagnes de fou qui de 5-6 parties. Bon, après, ça peut être aussi un peu répétitif. Hein. Mais c'est aussi un jeu qui a beaucoup marqué parce qu'il a donné. Il a beaucoup inspiré des jeux comme Blood Barrettes,
ouais,
Space Crusade, Advanced Space Crusade. Deathwatch Overkill, encore aujourd'hui, Ultramarine, pour les anciens.
Et Warhammer 40,000.
40,000 d'une certaine mesure, ouais, mais après, il n'y a pas que ça. Il y a eu aussi Legends of Steel, qui est un jeu italien. Il y a eu Sedition Wars, qui était un des premiers KS faits autour de la figurine. Puis bien sûr, tous les KS actuels, ouais. Dès que tu es un alien.
Dans un crawling avec de l'alien. Ouais.
Voilà. Alors après, pour ce qui concerne sa mécanique, bah, c'est du tour par tour, hein, avec des scénarios, avec du scénario, avec objectif. Bon là, je sais pas si on peut vraiment parler de narratif pur là-dessus, je pense pas.
C'est tu au peux moins du procédural.
Mais au moins, voilà. Et puis, c'est surtout assez révolutionnaire à l'époque, c'est que le plateau se constituait de tuiles comme ça, qui représentent que des couloirs et des salles, et tu le... pour chaque scénario, t'as une configuration différente. Mais t'avais tout ce qu'il fallait dans la boîte.
Comme pour Blackstone, quoi. Enfin,
ouais, c'est...
Blackstone s'est inspiré
c'est
de
c'est ça. C'est le premier jeu à présenter ça comme ça. En plus, ce qui était bien, il y avait en plus dans l'extension des swings, t'avais les GeoTiles où là, tu pouvais tirer carrément au dé les sections et t'avais un truc carrément inédit à chaque partie.
Je crois que j'ai joué qu'une seule fois.
Ouais. Et alors, c'est un jeu qui est assez, en termes d'immersion, qui peut être assez. Assez immersif, voilà.
C'est pas mal, pour un jeu.
Non, parce qu'en fait, si tu veux, c'est très oppressant. C'est-à-dire que le Genie Stealer, il est là pour te buter. Voilà, c'est clair. Le joueur de Genie Stealer, il fait que ça. Toi, tu joues Space Marine et t'as des types d'actions, mais t'as des actions qui sont très limitées. T'as 4 actions, enfin, t'as 4 points d'action. Tu peux avoir aussi des points alloués en actions supplémentaires sous forme de points de commandement, mais qui sont pas connus par contre de l'adversaire. Et tu as un temps limité, c'est-à-dire que pour jouer ton tour, t'as 3 minutes.
Ça c'est bon, ça.
T'as 3 minutes.
Ça c'est très très bien.
J'ai toujours l'impression que chaque action c'est un sacrifice. En
fait. Voilà, c'est ça. Tu vas faire des choix.
Putain, je dois faire ça.
Tu dois faire des choix. Parce que le Genie Stealer,
et c'est facile de gagner du coup.
Lui va mourir.
Non, c'est très difficile.
C'est très difficile.
Mais il conseille justement de jouer en alterné. Ça, un jour, un moment tu fais le Marine et un moment tu fais le Genie Stealer. Après, ça peut donner. C'est un jeu. Le défaut, c'est peut-être les parties qui peuvent être un peu longues. Ouais. Les jeux d'époque. Bah, fin des années 80, 90.
Ça revient à la mode. Ça revient à la mode. J'ai l'impression que, tu vois, dans ce que tu me décris, je n'ai jamais pas joué à Space Crusade, à Space Hulk.
Ouais.
Et c'est qu'aujourd'hui, on est sur cette dynamique-là dans les jeux vidéo du die and retry, tu vois. On voit sortir des jeux comme ça qui sont complexes. Pas pour tout, hein. Il y a une partie des jeux qui sont du Fortnite et bon, c'est complètement débilos, il n'y a rien, il n'y a pas de contenu. Et après, bon, il y a d'autres jeux où il y a un peu de contenu, et on aime se faire du mal, c'est un peu bizarre de dire ça.
Blasphemous.
Mais après, moi, tu vois, il y a XCOM, enfin, Space Hulk, tu vois.
Ouais, t'es des jeux très punitifs, quoi.
C'est Space Hulk, XCOM, c'est hyper punitif. Alors, les plus récents sont plus faciles, mais je pense que ça a dû sortir en même temps, XCOM Terror from the Deep, etc. Sur PC. Je sais pas si c'est contemporain, mais
XCOM, ils sont super vus.
C'est,
hein.
Les
reproductions de Space Hulk en jeu vidéo ont jamais vraiment été des trucs super. Il y a aussi un jeu de cartes, je sais pas ce qui est beau.
Il y a aussi un film.
Ah, alors là, on peut parler des inspirations qui sont sur Aliens, qui est sorti en 86.
Non, un vrai film Space Hulk créé par Games Workshop avec des vrais acteurs.
Alors, c'est pas un film, c'est un petit teaser qui avait été fait à l'époque pour le Golden Moment, un Games Day. Au moins, il avait passé comme ça.
Ça dure un petit bout, hein, quand même. Hein.
Ouais, c'est pas mal. Hein,
c'est très oldies. Alors, je te conseille d'aller voir la chaîne de. Il y a des Anglais qui parlent beaucoup de rétro gaming en jeu, etc. Ils sortent des vieux codex. C'est une fille et un gars. Et ils font l'analyse de ce film-là, avec les effets spéciaux complètement carton-pâte.
Les
moyens du bord.
Mais c'est les mecs de Lenton qui ont dû faire eux-mêmes, quoi.
Ils ont tout fait eux-mêmes.
Ils se sont démarrés, quoi.
Ils se sont bien démerdés, mais.
Moi, j'ai une question sur Space Hulk, parce que j'ai fait une partie, et après, c'est subjectif. Moi, j'ai pas apprécié le jeu, parce que j'ai trouvé la mécanique trop datée, en fait. Mais est-ce que entre l'ancienne et la nouvelle édition, est-ce qu'il y a eu une mise à jour du système, ou est-ce qu'on est resté sur un système vraiment
non
qui était le
c'est-à-dire que les nouvelles éditions sont plus faciles
Ouais, c'est juste voilà. Plus facile en fait.
Après, il y a peut-être eu certainement eu quelques changements. J'ai pas joué aux nouvelles ouais. éditions. Moi, j'ai joué à Special que j'ai dû faire 5-6 parties. Et puis après, bon, bah, j'ai pas joué aux nouvelles éditions. Et puis ça date aussi. Moi, je me suis beaucoup plus intéressé à Special que d'un point de vue purement personnel parce que c'est le jeu qui m'a un peu. Le box art, quand j'allais au Furet du Nord à Lille, je descendais un truc, je voyais le box art, j'étais. Sur le... J'adorais.
Moi, je me souviens que j'étais à jouer club à des thunes. J'avais une boîte Necromunda, une boîte Space Hulk, et j'avais que 400 francs en poche. Putain, je prends lequel, quoi.
Moi, je parle à ouais. 20 en plus. Donc, ouais. là, le boxeur de la 20, j'aurais dû la ramener.
J'ai pris Necromunda.
Je suis un. Mais, ouais. T'as bien fait, je pense.
Ouais, ouais mais pourtant, le boxeur était dégueulasse. Hein, ouais, Necromunda.
Ouais, ouais, ouais. Oui, le boxeur, ouais,
c'était un repoussoir.
Ouais, le Goliath qui ressemble à rien, qui tire
affreux. Et les figurines sont affreuses aussi.
Ouais, c'est pas terrible.
Sauf les Escher en métal, c'est Jess Goodwin.
Ah, oui. Je parle les Goliaths de la boîte. Ah,
oui. Encore aujourd'hui.
Oui, alors que la V1 dont tu parles, c'était les premiers Terminator métal.
Non, alors c'est tout en plastique en plus. Les Genestealer étaient magnifiques, ils ont quasiment pas changé. Alors les Genestealer en plastique étaient magnifiques, ils ont pas changé pendant 20 ans quoi. La sculpture, ils ont épuisé les. Des moules à fond quoi. Mais par contre les Terminator ils étaient mais immondes hein, vraiment les Terminator Special que immondes. Alors c'est pour ça que moi personnellement j'ai fait l'acquisition des vieilles boîtes de Deathwing, de Space Wolf Guard etc. pour pouvoir rejouer un jour avec les filles de métal.
Ça fait très coquille d'œuf effectivement.
Oui,
ça me déplaît pas.
Moi je me souviens principalement du jeu vidéo qui est sorti sur Neo Geo et sur PC parce que je connaissais le jeu Space Crusade sur Amiga.
T'avais une Neo Geo?
Ouais. Non, j'avais pas une Neo Geo.
T'es une blinde.
Ah, ça coûtait trop cher la Neo Geo.
Personne ne l'avait.
Non, personne l'avait. Si, c'était que de l'import et tout ça. C'était, enfin, non, j'ai joué beaucoup sur l'Amiga 500 à Space Crusade. Et du coup, je me suis un peu vaguement intéressé. J'ai vu au détour d'un joystick magazine ou un truc comme ça. Et ce qui était intéressant, c'est que t'avais des petites, alors, c'est con, c'est un détail vraiment. Les petites caméras que t'avais sur chaque Marines. Ouais. Et moi, ben, je reviens toujours à ma Bible, Alien 2. Tu vois, parce que ça fait vraiment penser à ce truc-là du gars, mais qu'est-ce que vous faites, putain, pote? Vous allez faire un tir de barrage.
Détecteur de mouvement.
Là, une des licences que Games Workshop a s'est appropriée. J'étais fâché. Hein. J'étais très fâché.
Et là où Prodos, lui, avait sorti un jeu Alien
versus Predator.
Les figurines.
Oui.
Les figurines d'Alien étaient vraiment réussies. Les figurines de Marines, c'était pas trop mal.
Non, mais
bon,
les figurines étaient chouettes.
Pour la collègue, je pense que c'était vraiment sympa.
Oui,
si tu voulais te faire plaisir à peindre un alien, c'est
après,
vrai que.
Est-ce qu'un jeu de licence, ça limite pas
le
genre cadre,
les mécaniques.
J'ai vu une fois une partie de gars qui ont joué, tu vois, en jouant. Ils ont joué. Enfin, tu vois de la masse. En plus, c'est un jeu d'armée, quoi. Et tu fais, mais une armée d'aliens. Enfin.
Ouais,
je trouve ça un peu idiot, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas.
Moi, si j'avais fait un jeu basé là-dessus, et d'ailleurs, ce que Special proposait, c'était justement, c'est-à-dire que tu joues contre les Genestealer, mais tu ne les vois pas.
Ouais.
C'est-à-dire que tu joues des pions.
C'est vraiment ça.
Alien,
des blips.
Ouais. Et il y a que le joueur Genestealer qui sait combien il met de blips, parce qu'un blip pouvait représenter un ou trois Genestealer.
Et
il faut savoir qu'un Genestealer, quand il t'arrive sur la gueule.
C'est des ouvre-boîte.
C'est-à-dire qu'un Genestealer, t'arrives sur la gueule, simplement, tu lançais 3D6 et le Terminator 1D6.
Ouais.
Il fallait faire, c'était celui qui faisait le plus gros résultat.
Ah oui, d'accord.
Donc voilà,
c'était ouvert quand même.
Oui, c'est ça. En fait, dès que le truc, c'était ça. C'était, tu pouvais pas gérer un corps à corps, donc fallait pas que les Genestealer arrivent au corps à corps. Donc tu avais tout aussi. Alors toi, en tant que Terminator, tu avais des armes de tir extrêmement puissantes, mais tu touchais quand même sur un 6, quoi.
Tu touches
sur un
6.
Sauf que tu pouvais faire du tir soutenu, et là tu touchais sur du 5 ou du 6. Oh, c'est un petit peu mieux quand même.
Une chance sur
mais tu aurais été bon ce jeu-là, en fait.
Mais non, mais après t'avais aussi extensions sont venues des armes qui rééquilibraient un peu la chose, parce que déjà bon, t'as droit au lance-flamme de base. Qui est un truc hyper létal pour les Genestealer, mais
ils se vident quand même.
Voilà, ils se vident. Après, tu as eu le canon d'assaut, et à un moment, ils avaient même introduit le lance-missile Cyclone.
Oh, putain.
Alors non, t'imagines dans une espèce de
Space Hulk. Pas...
Ou encore le Terminator avec griffes éclair, où là tu avais carrément le gars qui avait des bottes magnétiques, il se s'ancrait au sol et il venait, voilà. Et là, lui, par contre,
au lieu d'avoir un dé, t'en avais deux.
Ça devait être ça, ouais.
Bah oui, parce que t'as deux mains.
Voilà, ça devait être ça. Non, c'était assez punitif. Et après, ils ont encore sorti d'autres extensions où ils ont introduit les hybrides, les Magus avec des pouvoirs psy. Et à partir de l'extension de Genestealer, qui est la deuxième extension, après, il n'y en a plus. Là, le jeu a été vraiment dénaturé par les pouvoirs psy, où là, le Magus, il défonçait tout. Ça devenait très complexe. Ouais. Mais par contre, l'extension Deathwing, elle a introduit plein de trucs, et notamment du multiniveau.
Ça, c'est cool.
Tu pouvais...
Et ils ont jamais introduit d'autres races que... Parce que Space Hulk, c'est uniquement Genestealer.
Si, à travers des White Dwarfs, tu pouvais jouer les orques, tu pouvais jouer des escouades de scouts, tu pouvais jouer
des
Eldar, etc.
En gros, c'est...
Ouais, mais cela dit, en fait, ou même des traitors marines, mais cela dit, après, ça tournait simplement au jeu de confrontation dans les couloirs.
C'est
donc,
cool.
C'est, en fait, au final, le jeu était dénaturé, c'était pas extraordinaire. Quoi.
Et du coup, pour toi, le... Excuse-moi, Pierre.
Vas-y.
Comment ? Le digne héritier de Space Hulk V1, pour toi, ça serait quoi ?
Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Vraiment.
Pour l'instant, il
n'y
en a pas.
Genre,
mais...
Blackstone Fortress.
Bah, c'est un autre plaisir, c'est autre chose. Blackstone, c'est un Warhammer Quest.
Oui, d'accord.
Tu vois, pour moi, à limite, tu me dirais, ah ouais, c'est quoi le digne héritier de Talisman ?
Ouais.
Que, bah, c'est Blackstone Fortress. Ah bon ?
Non,
bah, ça n'a rien à
voir.
Non, ça, c'est pas Talisman.
HeroQuest.
Advanced HeroQuest. HeroQuest,
ok, d'accord.
Advanced HeroQuest, excuse-moi.
Le jeu de loi. Ouais, c'est ça. Va en case machin, il y a un trou. Ah, t'es mort.
Sauf que ça dure 6 heures.
Advance Hero Quest, j'y ai joué, j'ai fait les deux premières parties de la quête de Sonnen Killing, et franchement, ça, c'est hyper long.
Parce que...
D'ailleurs,
on rejoue, hein.
Faut que je prépare.
Non, pas Talisman, donc excusez-moi.
T'as pas de jeu, en fait, qui reprenne un peu le stress de l'alien qui est planqué.
Il doit y en avoir, dans les KS, etc.
Alors, il y a d'autres jeux de plateau, hein. Vous avez. Ça va me revenir, mais il reviendra plus tard. Il y a un jeu de plateau très bien par Bruno Catalan.
Gears of War, ouais, voilà, j'allais dire.
C'était pas pareil, t'avais pas le stress de dire dans ce couloir-là, est-ce qu'il y a un bâtard ou cinq, tu vois.
Ouais, non, tu le sais d'entrée. C'est vrai que ça, c'est un peu con. Et c'est un plaisir que tu retrouves dans XCOM, en fait.
Ouais.
Dans XCOM, t'entends les petits bonhommes bouger dans ton jeu PC. Hein, moi, je parle de l'ancien jeu, vraiment le Terror from the Deep auquel j'ai beaucoup joué, où t'entendais, puis tu voyais l'écran, tu dis putain, ils sont où les enculés. tu lançais un gars, tu dis merde, j'ai avancé trop, il a dépensé tous ses points d'action et là t'es dans la merde.
Space Crusade. Ouais. Alors j'ai beaucoup joué. Et
il y avait les jetons blip. Ouais.
Énormément.
Et tu savais pas si t'allais tomber sur le Dreadnought du chaos ou pas.
Tu pouvais tomber sur un Gretchen ou un Dreadnought. En
d'ailleurs,
fait.
Et
il y a un joueur qui joue le.
Et il y a une tension. Moi, je joue avec.
Non, c'est pas de l'actu.
Mais c'est vrai que dans les jeux actuels. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui reprennent un peu l'ambiance de Space Hulk.
C'est-à-dire qu'il y a tellement de jeux actuels,
ouais, ça
je pense que
c'est
difficile de juger. Simplement, celui-là, ça a été le premier dans ce style-là. Il a vraiment marqué. Et puis surtout, faut pas oublier un truc, c'est qu'à l'époque, surtout en France, il y avait pas. On connaissait 40 000, les gens connaissaient 40 000. Hein, j'entends de par là tous les underground de l'époque qui faisaient de la figurine, hein,
trader,
et très peu. Mais en produit d'appel, il y avait très. Les gens ne jouaient pas à 40 000. Les gens achetaient les figurines, mais ne jouaient pas à 40 000. Et on jouait à Space Hulk ou à Epic.
Ouais.
Mais c'était les deux produits d'appel. Et donc Space Hulk, ça a été vraiment le produit d'appel avant que Space Crusade arrive. Bien sûr.
C'est un peu un jeu fondateur d'une certaine image et il est en cohérence totale avec l'univers, en fait, c'est ça.
Ouais, et c'est un tout, quoi. C'est à la fois c'est rétro, c'est à la fois c'est encore jouable, hein. Pour moi, c'est largement encore jouable.
Tu joues avec ton fils ?
Pas encore parce que.
Ça m'a l'air complexe.
Pas encore. Hein. Je pense qu'il faut avoir 13, 14.
En fait, je pense qu'il faut passer le cap de je me fais rouler dessus.
Carrément.
Ouais.
Pour ce jeu-là, justement, pour avoir le vrai plaisir, c'est-à-dire que le joueur Genestealer, il faut inverser les rôles, partie comme ça, et la même partie dans la foulée refaire le truc.
Si t'es trop jeune, tu risques d'être blasé direct.
Ouais,
c'est impossible.
Je
pense que le mien, je peux pas le faire jouer. Tu vois,
je conseille largement Silver Tower pour jouer avec vos gamins.
Ouais.
Franchement, alors il est pas facile. Hein. Il y a des moments où c'est difficile, mais franchement, c'est un super dungeon crawler.
Parce qu'on n'entend pas.
Ah ouais.
Je t'avoue que j'étais un peu baissé parce que tu parlais très fort.
Ah ouais, non,
ouais, je sais. Bon, bref,
et
vas-y, excuse-moi.
Silver Pierre. Tower, en fait, vous allez partir sur en plus un univers de fantasy, donc il y a pas trop de trucs horribles, du sang, tout ça, et c'est assez narratif. Et puis il y a le côté, vous posez des petites plaques de décor, et puis vous allez les retirer au fur et à mesure. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on peut même changer de personnage en cours de campagne, ça pose pas de problème. On peut faire venir des gens, repartir des gens. Un peu la Blackstone, en fait, c'est un pré-Blackstone. Mais enfin voilà, je vous le conseille.
Masp. Est-ce que tu avais encore d'autres?
Bon, non, rien d'autre, simplement.
Ok. On a une heure et quart de podcast.
Super.
Un petit quart d'heure de rap, vous voulez faire une heure. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, messieurs?
Ben, non. Pour ton prochain podcast, tu voulais parler de?
Certainement revenir sur Dragon Magazine. Alors, mes versions françaises, qui s'appelaient à l'époque aussi en sous-titre L'Encyclopédie des Mondes Imaginaires. Je rapporterai sûrement quelques exemplaires où j'essaierai de faire pas un historique,
l'archéo.
Mais voir avoir une vue d'ensemble de ce que faisait ce qu'on faisait à l'époque quand il n'y avait pas Internet, quand il n'y avait pas que des fanzines ou des magazines dans ce genre-là. Voilà, comment on pouvait se cultiver sans avoir toute l'info à portée. Quoi.
Pierre.
Sur Warcry, l'aspect narratif de Warcry.
Ah oui, c'est vrai.
Parce que c'est pas gagné.
Ouais. Et moi, je parlerai d'un autre monde englouti, je parlerai du monde de Ava et AT43.
Waouh!
Ce sera surtout de la SF.
Ouais,
donc on
voilà. Cool!
On se donnera rendez-vous d'ici un mois. On aura une date à définir. Donc restez à l'écoute en fait, sur notre flux Facebook. On vous proposera donc les prochaines dates. Et en attendant, n'hésitez pas à nous faire en com un petit peu ce que vous voulez qu'on entende. Ou ce que vous trouvez que c'était nul, oh, Dimi parle trop fort, des choses comme ça.
Ouais, ouais. C'est vrai.
J'en profite aussi pour remercier. Notre fournisseur de jingle.
Ouais, c'est vrai, il faut le dire.
Puyo. Ouais. Merci à lui hein, voilà. De nous permettre.
Il est super sympa.
Super ouais.
Vous pouvez aller voir sa. Il s'appelle Pierre Lecam. Vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube. Il produit pas mal de musique et il a créé 2-3 musiques pour 40 000 que vous pouvez utiliser dans vos parties, etc. Après, il fait pas mal de choses. Il est prof de musique. Il enseigne et donc du coup
celui qui fait le générique de Iggy TV.
C'est ça, ouais. Exactement. Ouais. Voilà.
Et je vais faire un peu de pub pour Iggy TV qui a fait un live sur Frostgrave et Warcry très récemment cette semaine.
Ok.
Ouais, un grand bonjour à Iggy.
Iggy et ouais, moi si j'ai pas de bonjour. Moi je regarde beaucoup d'anglo-saxons, hein, je regarde moins de français alors voilà.
Ok. Bon, merci beaucoup à tout le monde alors. Et bonne soirée.
Ciao.
Ciao.